Je vous remercie d'être venu aujourd'hui, d'avoir trouvé le chemin dans les travaux, ce qui était déjà pas évident. Nous allons commencer sans tarder avec alors deux invités qui sont venus spécialement. Alors, Pierre-Henri Castel, qui est philosophe, historien des sciences, directeur de recherche au CNRS, psychanalyste et qui a récemment publié, c'est son ouvrage le plus récent, Le mal qui vient, aux éditions du Cerf. D'ailleurs, vous nous expliquerez quel est le postulat de départ qui peut faire un peu peur. Yannick Rumpala, qui est maître de conférence habilité à diriger les recherches en sciences politiques à l'Université de Nice, au laboratoire Hermès, qui travaille sur le processus de construction d'alternatives sociales et écologiques, notamment à travers l'imaginaire politique de la science-fiction. Il a notamment publié, et récemment publié, « Hors des décombres du monde, écologie et science-fiction et éthique du futur en 2018 ». Pardon, je retarde un peu. Le sujet du jour est donc écologie et science-fiction. C'est un vaste sujet. Alors, le programme de conférence est intitulé « Et si ?». On s'aperçoit finalement que cette question écologique est souvent présente en arrière-plan ou pour expliquer les causes d'une catastrophe. Alors, je prendrai un exemple que peut-être vous connaissez pour avoir vu La Servante écarlate, en tout cas la version télévisée, où on se rend compte que finalement la situation politique est due à une catastrophe écologique. Pour autant, alors je vais peut-être commencer par une question basique. Quel rapport entretiennent écologie et science-fiction, ou je dirais les différents courants de science-fiction? Alors je vous laisse l'un et l'autre. C'est une table ronde, mais comme nous sommes alignés, c'est un peu plus compliqué pour intervenir.
Alors,
peut-être.
Le rapport n'est pas évident et direct. Par contre, c'est la manière dont un spectateur ou un lecteur potentiel va s'approprier les écrits qui peut rendre ce rapport un peu plus évident et être, comme je le dis dans mon livre, problématisé, pour emprunter un petit peu à Michel Foucault. Alors, pour vous le montrer, le mieux, c'est de partir d'un exemple. Et même le plus ludique, celui qui paraît le moins sérieux, qui est Star Wars. Et je vais donc lancer la vidéo, et puis on y reviendra après pour vous, voilà, faire voir.
Tu veux vraiment qu'on se pose là?
Ah ouais, pourquoi? Il y a juste un désert et Jabba.
Le top 5 des planètes de Star Wars sur lesquelles on n'aimerait pas habiter.
Numéro 5, Tatooine.
Du sable et... Eh ben oui, du sable. Il n'y a que ça sur cette planète pourrie.
T'exagères un peu, il y a quand même les fameuses courses de pod et plein d'autres festivités sur Tatooine.
Ouais, il y a aussi plein de créatures que t'as pas envie de croiser. Au hasard, des hommes de sable, le Sarlacc et Jabba. Regarde le pauvre John Boyega, même lui, il a l'air traumatisé.
Est-ce que le son est suffisant? Je sais pas comment.
Numéro 4, Kamino.
Bon alors là, j'espère que t'as bien profité du soleil de Tatooine, parce que là, c'est terminé.
Message à l'attention de tous ceux qui se plaignent du mauvais temps à Paris, n'allez pas sur Kamino.
C'est simple, là-bas, il ne s'arrête littéralement jamais de pleuvoir.
C'est pour ça que la planète est recouverte par les océans?
Je pense, oui.
Numéro 3, Dagobah.
Moi je dis, pauvre Yoda.
Comment ça, pauvre Yoda?
Bah oui, à la fin de la revanche des Sith, il a été obligé de s'exiler dans ce bled complètement paumé.
Ouais, c'est vrai que Dagobah, c'est pas exactement les Bahamas de la galaxie. Mais au moins, on lui fout une paire royale au vieux Yoda.
Ouais, c'est vrai, il va pouvoir s'emmerder tranquille.
Numéro 2, Hoth.
Une planète qui ne porte pas super bien son nom.
Pas très Hoth, en effet. Je dirais même, un peu cold.
Hoth, c'est plus ou moins le jumeau maléfique de Tatooine.
C'est-à-dire qu'à la place du sable et encore du sable, t'as de la glace et encore de la glace.
N'oubliez pas vos gants, les enfants.
Numéro 1, Mustafar.
Vous avez attrapé froid sur Hoth?
Oh, pauvre petit. Mais pas de panique, vous allez pouvoir vous réchauffer bien comme il faut.
Oui, par contre, attention à ne pas glisser parce que cette dernière planète est entièrement recouverte de lave.
Question sécurité, verdure, joie de vivre et tout ça, c'est un peu le pire endroit de la galaxie.
Voilà, donc un exemple pour vous montrer que un des intérêts de la science-fiction, c'est aussi de nous faire voyager de planète en planète. Et ce faisant, donc en nous faisant voyager de planète en planète, c'est aussi une manière de nous montrer que ces planètes peuvent être plus ou moins habitables. Et c'est ça qui est très intéressant. La science-fiction, c'est pas seulement des personnages, c'est pas seulement des histoires qui sont racontées à travers ces personnages, mais ce sont aussi des décors. Et ce que j'essaie de montrer dans ce dernier livre, c'est que les décors peuvent être des moyens de problématiser des enjeux environnementaux, des situations environnementales et des conditions environnementales. Et ce que nous montre ce petit parcours, c'est que des changements de quelques paramètres peuvent rendre ces planètes plus ou moins habitables et plus ou moins confortables. Et notamment pour les humains qui y sont, bah, trouver des conditions pour y habiter. Et des conditions qui peuvent être parfois difficiles. Donc vous avez tout, hein, la planète qui est très froide, la planète qui est très chaude, la planète dont les conditions atmosphériques peuvent être difficiles. Et tout cela, mine de rien, bah, c'est une manière de réintroduire des questions écologiques. Donc en vous montrant que, bah, effectivement, ces quelques variations de paramètres, que nous aussi on peut subir, hein, donc une planète plus chaude typiquement pour les années probablement et les décennies qui viennent, bah, peuvent rendre la vie des humains nettement plus compliquée. Et quand vous regardez la science-fiction, en fait, il y a tout un tas de petits détails qui paraissent très anodins, mais qui montrent ces enjeux d'habitabilité et ce que ça veut dire pour des espèces pensantes, bah, d'avoir face à eux des environnements plus ou moins habitables. Je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous êtes plus ou moins amateur de science-fiction. Dans beaucoup de films, vous avez cette séquence où les héros sont sur une planète ou un espace nouveau et où ils doivent retirer leur casque. Ce fameux moment qui est très symbolique, hein, où ils retirent leur casque. Bah, ce petit épisode, mine de rien, ça vous montre, pour le coup, par une petite séquence, que l'air autour d'eux est respirable, que les conditions environnementales sont suffisamment confortables pour que des humains puissent s'y installer. Alors parfois ça tourne mal, comme dans Alien Covenant, où on se fait contaminer par les oreilles et on devient potentiellement un méchant alien, mais ce petit geste, rien que retirer le casque, signifie que les humains se considèrent dans un environnement qui est suffisamment sûr pour s'approprier en quelque sorte cet environnement. Et c'est une manière de commencer à rentrer sur ces enjeux d'habitabilité. Donc on peut problématiser, puis après on verra éventuellement comment on peut accrocher des enjeux éthiques sur ces questions.
La question était
quel rapport entretient écologie et science-fiction? Alors peut-être à travers votre ouvrage, où vous partez du principe que la fin du monde est certaine, qu'elle arrive. Et alors peut-être une question un peu plus précise.
On peut répondre à cette question-là de façon normalement aucun. Il n'y a pas plus de raison de donner parmi les paramètres de la science-fiction des paramètres écologiques que de donner des paramètres comme par exemple ceux de la physique, de l'écoulement du temps, du voyage dans le temps, de donner à la science-fiction des caractéristiques morales. On rencontre des gens qui n'ont pas du tout les mêmes sentiments moraux, enfin des êtres, pas des gens, les mêmes sentiments moraux que nous. Et en fait, l'intérêt qu'on éprouve en général pour la science-fiction, c'est un intérêt qui est philosophique. Il est même radicalement philosophique, puisqu'en fait, on fait jouer des paramètres, on ajoute un paramètre, on enlève un paramètre de notre existence, et on essaie de suivre le plus rigoureusement possible. Il faut être très logique pour écrire des scénarios de science-fiction. C'est vraiment une école de la logique. C'est extrêmement formateur intellectuellement d'essayer de voir et de juger jusqu'à quel point les gens ont été conséquents dans les développements qu'ils ont donnés. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est une des vertus, par exemple, qui est demandée des mathématiciens qui font les modèles du climat ou de certaines choses. Je pense qu'ils sont des grands consommateurs de science-fiction pour des raisons qu'on verra, qui sont de nature logique et formalisables d'ailleurs. Et donc, ce qui est assez rigolo, c'est que il y a une sensibilité de la science-fiction aux enjeux du moment. Et donc là, effectivement, on s'est aperçu que la question des planètes, comme vient de le signaler Yannick, la question des planètes et de ce qui se passe quand on fait varier des paramètres sur la Terre, comme ça, pour comprendre les paysages terrestres à chaque fois, auxquels on ajoute ou on enlève, tout est volcan, tout est désert, tout est océan, tout est banquise, etc., sont assez, je trouve, un style particulier de choses. Et ce qui est vraiment le plus, c'est un style de science-fiction. Et ce qui, à mon avis, est pas encore vraiment tout à fait au point, parce que bon, c'est souvent une littérature secondaire ou secondarisée, c'est très rare de trouver des grands chefs-d'œuvre de la science-fiction, c'est le fait de pouvoir intégrer autour de la question de l'écologie l'ensemble des autres paramètres qui étaient ceux de la science-fiction. C'est-à-dire, il y a les paramètres politiques, mais aussi ça pourrait être des paramètres sur les sensibilités morales, les sensibilités intellectuelles, d'essayer de penser le plus loin possible les conséquences à partir des modifications du milieu de ce que pourraient être les conséquences sur les habitants. Voilà. Alors il y a quelques chefs-d'œuvre comme ça, comme Silo par exemple, qui essaie de voir comment une catastrophe, la déprivation de nature produit des individus qui ont un certain type de comportement particulier. Mais le problème, c'est qu'il faut être un très très grand génie pour aller très loin dans les conséquences sans inventer au fur et à mesure des solutions ad hoc chaque fois qu'on rencontre un problème. C'est-à-dire de se mettre dans le bain de ça. Et donc, probablement, la science-fiction écologique, hein, la science-fiction qui s'intéresse à ça, aux effets de perturbation de la nature, c'est celle qui devrait solliciter le plus d'imagination et de sens logique, parce que, comme tout est sur une même planète, qu'est-ce qu'on va réussir à en déduire pour... des choses très ordinaires, comme le rapport qu'on a à nos corps, au corps des autres, à la mémoire, à la vie, au sens, aux organes des sens, etc., etc. Voilà, c'est ça.
Pour compléter, un des termes importants qui a été prononcé, c'est le terme de conséquence. Le livre que j'ai écrit et publié récemment, il est basé sur deux postulats. Le premier, qui est que pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à traiter des questions d'environnement ? C'est parce qu'il nous manque une prise, qui est la prise sur le futur. Il nous manque une vision du futur. Et j'essaye de montrer qu'il y a, dans le livre, qu'il n'y a pas d'éthique de l'environnement qui soit envisageable sans une éthique de futur et réciproquement. Et un des intérêts de la science-fiction, c'est justement de construire une forme d'éthique des conséquences. Les différentes situations qui vous sont présentées dans les romans, dans les films, sont une manière de vous montrer quelles seraient les conséquences de choix qui auraient été faits par des humains, ou des non-humains d'ailleurs, et le type de trajectoire sur lequel ils se seraient engagés. Et c'est en ce sens-là que la science-fiction peut fournir une espèce de laboratoire, comme si vous vouliez tester des hypothèses, donc en l'occurrence, ce que nous on appelle en sciences sociales des expériences de pensée, voilà, vous avez un cadre pour les tester et qui vous montre quelles sont les conséquences de choix qui auraient été faits par des entités humaines ou non humaines. Imaginez par exemple, qu'est-ce qui se passerait si on poursuivait les trajectoires nanotechnologiques ou si on poussait les biotechnologies à leurs extrêmes. Et la science-fiction vous donne un moyen de les tester à moindre risque. Donc ça, c'est le premier postulat, l'articulation entre éthique de l'environnement et éthique du futur, qui est à mon avis indispensable. Le deuxième postulat du livre, on discutait en partie tout à l'heure de Günther Anders. Günther Anders est connu pour avoir théorisé ce qu'il a appelé le décalage prométhéen. Ce fameux décalage entre la capacité de production de l'humanité, Vorstellung, et la capacité de représentation de ce que fait l'humanité, Herstellung. Et l'hypothèse que je fais dans ce livre, c'est qu'une manière de résoudre ce décalage prométhéen, d'avoir une forme de représentation de ce que fait l'humanité, c'est d'aller voir où sont les générations futures, et où est-ce qu'elles sont déjà en train d'exister, les générations futures, forcément pas dans le monde réel, mais elles y sont déjà d'une certaine manière dans la science-fiction. Si vous voulez voir ce que seraient des humains dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, voire plus, vous les avez, alors certes avec des hypothèses fictionnelles, mais vous les avez, vous les voyez fonctionner dans des décors, vous les voyez avec leurs pratiques, vous les voyez avec leurs activités, et c'est en ce sens-là que c'est un formidable laboratoire. Et à partir de ça, vous pouvez articuler des réflexions éthiques ou politiques, comme on le fait chez nous habituellement en sciences sociales ou en philosophie. Voilà, le matériau, vous l'avez, le réservoir cognitif expérimental, vous l'avez, et vous avez des prises pour commencer à articuler la réflexion et articuler une série d'enjeux éthiques, comme je fais dans le livre.
Là, on peut commencer à discuter, parce que je suis en total désaccord avec ce qui vient d'être dit, en fait. Il me semble qu'au contraire, la science-fiction permet de faire deux choses, qui sont d'une part de raisonner sans éthique du futur, c'est-à-dire justement de se dispenser de savoir comment on est arrivé là où on est arrivé, dans la situation finale, et donc de prolonger les courbes sans aucune espèce de représentation a priori du caractère désirable ou indésirable de ce à quoi on arrive. Voilà, ça c'est un peu vrai. Et puis, exactement par opposition avec la chose, on peut au contraire se placer dans un état terminal, qui serait un état terminal dont on ne sait pas comment on y est arrivé, qui ne dépend d'aucune espèce d'augmentation des courbes. C'est d'ailleurs ce que je fais dans mon bouquin. J'imagine une sorte de fin abominable du monde, en me moquant totalement d'ailleurs des manières dont on pourrait arriver à cette fin-là. C'est qu'une des ressources de la science-fiction, me semble-t-il, c'est qui est intellectuellement formatrice, c'est justement de dissocier l'éthique de ce qu'il y a maintenant de l'éthique du futur. Je vais expliquer ça d'une manière qui est, je crois, un peu plus difficile sur le plan formel, mais qui va vous le faire sentir. Ça s'appelle « Et si ?» notre réunion. En fait, quand vous faites des modèles mathématiques, par exemple, de prévision du climat, des choses comme ça, il y a une chose qui est assez paradoxale et qui fait que les sciences du climat sont constamment attaquées pour des raisons qui sont d'ailleurs tout à fait rationnelles, c'est qu'on ne peut pas faire de modèle si on n'a pas d'histoire à raconter. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut partir d'assomptions, d'hypothèses, et que ces hypothèses doivent être emboîtées les unes dans les autres, et c'est ça qui est formalisé par ce qu'on appelle des équations structurales. C'est la manière d'articuler des dépendances de si et de alors. Et ce qui est très particulier, c'est que la façon dont on construit les modèles en question ne partent pas des propriétés des équations structurales. Vous ne pouvez, enfin, elles en tiennent compte, bien sûr, notamment elles tiennent compte de la possibilité de les mettre dans des ordinateurs, ce qui n'est pas toujours possible, ni facile, ni on ne sait pas toujours comment faire. C'est d'abord de faire la liste des hypothèses qui sont tenues pour plausibles, et puis de se demander si un certain nombre de ces hypothèses ne sont pas entre elles contradictoires ou, par exemple, ne se préemptent pas. Alors, j'explique ce que c'est que la préemption causale hein, dans ces modèles-là. C'est le fait qu'une cause, normalement, suffit à produire un effet, mais quelquefois, par exemple, quand deux enfants jettent une pierre dans une vitre, pour prendre l'exemple standard en philosophie des sciences, quand deux enfants jettent une pierre dans une vitre, il se peut qu'ils lancent, par exemple, tous les deux, au même moment, la pierre. Et que donc deux causes suffisent à produire un effet. Il se peut aussi qu'un des enfants lance la pierre, et puis comme la vitre a été cassée, l'autre, il se dit, c'est pas la peine de lancer la mienne. Mais si le premier avait raté, le deuxième aurait lancé la sienne. Et tout le problème, c'est de savoir, quand on fait des hypothèses, si les rapports de causalité, les « si alors » qui sont emboîtés, ne produisent pas des paradoxes, des effets dans lesquels il y a plus d'une cause pour le même effet, ou bien il faut que deux causes convergent pour produire le même effet, ou bien si une cause, on en tient compte, en fait, elle n'est pas vraiment pertinente parce qu'une cause plus proche va produire l'effet qu'on recherche, etc. Et ça suppose une imagination. Une imagination qui, justement, implique de totalement se dispenser de représentation de l'état final qu'on va obtenir. Parce que si vous représentez l'état final, la vitre cassée, justement, vous êtes aveugle sur la compétition des causes qui vont produire cet état final. Et la plupart des gens qui travaillent sur ces modèles savants, ces modèles mathématiques, ne cessent de dire que l'imagination dont on a besoin, c'est celle de la science-fiction. Parce que c'est vraiment celle de raconter une histoire. Il faut pouvoir raconter une histoire avec des multiplicités de causes dont on ne sait pas très bien si elles se complètent, s'invalident mutuellement, se renforcent mutuellement. Parce que ensuite, les modèles qu'on fait tourner dans les ordinateurs ne sont que l'implémentation de ces hypothèses préalables, dont on sait, par exemple, il y a plein d'exemples pour les gens qui travaillent en philosophie des sciences là-dessus, qu'on a dû renoncer à certains modèles parce qu'on s'est aperçu que on peut tout à fait les faire tourner sur des machines, mais que le type d'hypothèse causale qui était sollicité était paradoxal. Donc moi, ce que j'aime bien, vous voyez, dans l'idée de science-fiction, c'est les auteurs qui réussissent à se poser des questions de ce genre, voire à faire en sorte que leur propre personnage, à l'intérieur du processus d'action qui est raconté dans le roman ou dans le film, en viennent à se poser eux-mêmes ce type de questions, par une sorte de mise en abîme. Par exemple, je trouve que Dune de Frank Herbert, quelquefois, les gens se posent la question de leur influence personnelle sur le cours de l'histoire ou des choses de ce genre, d'une manière extrêmement, extrêmement subtile. Voilà. Et donc, vous voyez, au lieu de le penser comme quelque chose qui implique une éthique du futur, je pense que ce qui est intéressant de mon côté, mais peut-être qu'il y aura un rebond sur ma remarque, c'est qu'on peut justement faire de la science-fiction en faisant un vrai outil de réflexion logique sans état ultime désirable ou indésirable. C'est-à-dire sans savoir où on va aller. Ce qui serait génial, mais je ne sais pas si ça existe, parce que je n'ai pas une culture de science-fiction très grande, ça serait de savoir s'il y a des gens qui ont écrit de la science-fiction, alors c'est plutôt pour les gens qui écrivent que ceux qui font des films, sans savoir où pouvaient mener, dans les grandes sagas, d'épisode en épisode, ce qu'ils étaient en train de déployer. Moi, ce que j'ai fait dans mon livre, c'est exactement l'inverse. Je ne sais pas comment on arrive à l'état catastrophique final, mais l'état catastrophique final, lui, est entièrement déterminé et il est indépendant du point de départ ou du processus par lequel on veut y arriver.
Alors, on ne va pas rentrer dans un débat trop pointu. Moi, j'aurais tendance à penser que ce que nous proposent ces œuvres et ces représentations, c'est pas un état final, c'est un état à un moment donné. Et c'est un état qui peut être transitoire. Et il se passe des choses avant, il se passe des choses potentiellement après. Donc, c'est pas une forme de représentation ultime. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fait que cet état, à un moment donné, est transitoire et le résultat de choix qui ont été faits auparavant et de formes de préférence. Et c'est plutôt une manière pour moi de questionner ce qui est entre notre moment présent et ce qui est cette représentation du futur qui m'intéresse. Et à chaque fois, c'est pas un état final. Alors, je sais pas si on peut enchaîner sur un nouvel exemple pour des raisons ludiques. Est-ce que l'hypothèse que j'ai souvent en tête, c'est que beaucoup d'entre vous connaissent le film Soleil Vert, mais pas forcément. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais repasser la bande-annonce. Et là, pour le coup, on verra
New York City.
Par contre, le son, je sais pas comment.
In the year 2022, nothing runs anymore. Nothing works, but the people are the same, and the people will do anything to get what they need.
This is the police.
What they need most is Soylent Green.
The supply of Soylent Green has been exhausted. Return to your home.
It is the secret of Soylent Green.
Detective Sergeant Thorne. He has a 2-year backlog of unsolved murders. Now he's on a case that must be solved. Saul Roth, Thorne's private library.
Hey, Saul!
A living book in a world without books.
Have some pencils, courtesy of your next assignment. William R. Simonson.
Simonson. He was the first to learn the secret of Soylent Green.
They told me to say that they were sorry, but that you had become unreliable.
Saul Roth was the next to know.
How did we come to this?
And he chose to die rather than reveal the secret of Soylent Green.
What is the secret of Soylent Green?
Why did you set up Simonson?
I didn't.
Cheryl.
See your hand.
Officially, she's furniture. She comes with the apartment. She belongs to the tenant.
How many times you been in trouble with the police, Cheryl?
Never.
Can't hear you.
Never.
Captain Hatcher. First, he wanted this case solved.
Well, what do you say?
It was an assassination.
Now, he just wants it closed.
Who bought you? High and hot. They want this case closed permanently. Their way. Now, you sign this. You sign it!
Thorne refuses to close the Simonson case.
Just do what you...
Je vais résumer très rapidement le pitch de Soleil Vert en version française. Donc c'est l'histoire d'un stade futur de l'humanité. Le film est emblématique de toute une série qui ont été produits et réalisés au début des années 70, qui est concordant avec la phase de mobilisation écologique et sur les questions d'environnement. Et le film part d'une série de postulats qui étaient très courants à l'époque, hein, qui correspondent aussi à des angoisses de l'époque, qui sont une terre surpeuplée, surpolluée, sur laquelle les ressources alimentaires auraient très fortement diminué. Et en fait, elles auraient tellement diminué ces ressources alimentaires que ne resteraient que quelques produits, hein, pour se nourrir pour la majeure partie de l'humanité, qui sont en fait des espèces de tablettes super protéinées de trois couleurs. Donc sur le marché, il y en avait au départ une rouge et une jaune. Et puis arrive une nouvelle tablette, une nouvelle variété sur le marché, qui est donc la version verte, et d'où le nom de Soleil Vert, dont on dit à la population qu'en fait elle est issue du plancton des océans, qui sont la rare forme de végétal qui reste en vie à la surface de la planète. Alors, le film raconte une histoire qui est policière, hein, qui est le meurtre d'un des dirigeants de cette entreprise. Et puis progressivement, donc le héros, qui est joué par Charlton Heston, va avancer dans le récit en faisant une série de découvertes, et notamment l'ultime, hein, que je ne vous révèle pas, mais dans laquelle il va découvrir que ces tablettes qui sont censées être faites de plancton ne sont pas faites de plancton, mais pourraient être faites d'un autre produit qui pose beaucoup de questions. Et mine de rien, le film a anticipé d'une certaine manière la maladie de la vache folle, où effectivement, on a fini par faire manger à des vaches elles-mêmes sous forme de farines animales, donc desséchées et désincarnées. Le film est aussi intéressant par ça, et c'est là où on peut rebondir sur ce qu'on disait, par sa séquence d'ouverture. En fait, le film commence par une série d'images en noir et blanc où on voit l'histoire de l'humanité depuis la révolution industrielle. Et vous avez une série de séquences où effectivement on part d'images bucoliques, et puis s'enchaînent des séquences où on voit les usines qui se développent, le trafic automobile qui augmente dans les agglomérations, ces agglomérations qui deviennent, qui montent en hauteur et qui deviennent de plus en plus artificielles. Et le film rentre progressivement, donc par cette série de séquences, en vous montrant justement la série de choix qui ont été faits auparavant et qui aboutissent à cet état du futur, qui est à nouveau un état à un moment donné, hein, mais qui pourrait être celui de l'humanité, donc postérieur aux années 70, dans lequel nous nous trouvons, alors certes pas encore à ce niveau-là, mais potentiellement avec d'autres craintes qui pourraient se confirmer. Donc très intéressant. Et puis, comme assez souvent, il n'y a pas seulement un aspect écologique, il y a un aspect social aussi, et on voit dans le film se réfracter toute une série d'inégalités. Et on s'aperçoit que la surpopulation, les restrictions alimentaires, ne sont pas que des aspects écologiques ou démographiques, mais que s'y réfractent aussi des aspects sociaux et inégalitaires. Puisque une partie de la population peut continuer à consommer de la viande, peut continuer à consommer de la nourriture, mais c'est un bien qui est un bien d'un extrême luxe et qui est inaccessible à la majeure partie de la population. Donc il y a toute une série de questions qui sont, alors pour le dire dans un vocabulaire un peu plus philosophique, qui sont problématisées pour le coup, sur la manière d'habiter une planète, sur qu'est-ce que c'est que préserver un habitat, et puis surtout qu'est-ce que c'est que préserver une habitabilité pour la majeure partie de la population, puisque les conditions démographiques très sévères amènent à traiter, et on voit quelques images, notamment l'affiche du film, si vous voulez récupérer, où le maintien de l'ordre et les tactiques anti-émeutes, pour faire écho à l'actualité, sont faites avec des espèces de camions-bennes, où on charge la population et on fonce dans le tas, comme si c'était de vulgaires matériaux.
Enfin, j'en ai plein d'ailleurs, j'en ai trois pages, mais j'aurais pas le temps de toutes les poser. Une autre question sur l'avenir écologique pour l'humanité. En fait, on a deux solutions. Soit l'humanité reste sur Terre, soit elle part sur d'autres planètes. Sur Terre, on a vu qu'il y a différentes possibilités. La ville totale, c'est Asimov, avec, par exemple, dans les cavernes d'acier, c'est-à-dire la planète Terre totalement recouverte par les villes et plus du tout de nature. Une autre possibilité, c'est le contraire, peut-être le retour à la nature, les villes souterraines et la nature en haut, mais une nature qui est plutôt faite pour nourrir. Mais quand j'ai vu le film Passengers, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que les deux personnes qui se retrouvent isolées pendant 80 ans sur un vaisseau spatial et qui savent qu'elles n'arriveront jamais à destination, se construisent en fait un bout de nature. D'ailleurs, se plantent des arbres, font une cabane dans l'arbre et se construisent une nature. Alors, est-ce que ça veut dire que l'être humain ne peut pas vivre sans nature? Est-ce que ça veut dire que l'avenir, c'est forcément avoir de la nature quelque part, ou est-ce qu'on pourrait vivre dans quelque chose où il n'y a que du béton, que de la ville, que de l'acier?
Bah, c'est à certains égards ce qu'essaie de montrer le film Passengers. Hein. Je raconte un petit peu l'histoire. C'est donc une planète alternative qui a été découverte par l'humanité. Et l'humanité fait le choix, effectivement, c'est une des options, hein, de mettre en sommeil quelques humains sélectionnés pour les envoyer sur cette autre planète. Alors, malheureusement pour le vaisseau et pour les deux en question, c'est que il y a un bug dans l'ordinateur qui gère le vaisseau. Il y en a un qui se réveille. Le problème, s'il se réveille, c'est qu'il est tout seul. Et il est tellement tout seul qu'il s'ennuie au bout d'un moment, et il se dit, bah tiens, puisqu'il passe fréquemment devant les autres appareils cryogéniques ou les espèces de cercueils où sont conservés les petits collègues, et j'allais dire malheureusement, en tout cas, il flash sur une femme qui est dans un autre espèce de cercueil, et il décide de la réveiller et de lui faire croire que elle a été réveillée comme lui par une erreur de la machine. Donc les deux vont survivre un moment, et puis malheureusement il va être obligé de lui révéler son secret. Donc ça va se passer pas très bien, parce qu'elle va pas forcément très bien le vivre. Mais ce qui va les réconcilier, c'est que effectivement le problème technique était un vrai problème technique qui n'a pas seulement réémerger les deux en question, mais c'est le vaisseau, hein, qui risquait d'être détruit par un emballement de son réacteur. Et donc les deux personnages vont se réconcilier autour de donc c'est l'aspect catastrophique du film, hein, qui est pas d'une grande originalité par rapport au corpus de SF, mais qui est quand même intéressant. Moi, je considère que toute forme de science-fiction peut avoir un intérêt, même la plus mauvaise. Ça dépend comment on la regarde. Oui, voilà. Enfin, même les Star Wars, les plus mauvais. C'est pour ça que je vous ai passé la petite séquence introductive tout à l'heure. Même à partir de ça, on peut trouver des accroches et s'amuser à réfléchir. Voilà. Et même si on s'ennuie au cinéma, voilà, on peut se dire, bah tiens, ça me fait penser à quoi et sur quels enjeux plus contemporains je peux embrayer pour faire quelque chose de plus intéressant. Et donc, en l'occurrence, les deux protagonistes vont se réconcilier autour du sauvetage du vaisseau. Et comme le disait ma voisine, y a un moment où ils vont à la fois s'ennuyer, et puis c'est un des aspects intéressants du film, c'est qu'il montre par effet de contraste le vaisseau, il est hyper technicisé. Voilà, la majeure partie du film se fait dans un environnement qui est complètement artificialisé, et y compris par leurs interlocuteurs. Voilà, ils sont un moment au bar, et le bar en fait est géré par une espèce de robot qui certes a un comportement qui paraît cordial, mais qui reste tout à fait un être artificiel. Et l'aspect symbolique, c'est cette mise en contraste entre le caractère très artificiel du vaisseau, et puis le fait d'aller reprendre des graines qui étaient en stock pour replanter, en plus en plein milieu, enfin dans l'espèce d'agora qui sert de point central du film. Et donc de problématiser pour le coup ce rapport entre l'artificialité et puis ce besoin de nature qu'auraient aussi les humains. C'est une hypothèse du film, hein, qu'on n'est pas obligé de partager, mais qu'on trouve de manière assez intéressante dans d'autres films. Pour ceux qui ont vu Oblivion, bon, j'ai mis de côté, mais j'épargnerai le passage parce que le manque de son va à nouveau saboter la chose. Mais Oblivion, c'est pareil. Vous avez Tom Cruise qui est pour le coup, cette espèce d'emblème du monde machinisé et procéduralisé. Tom Cruise, il a une espèce de moment de respiration qui est sa petite cabane dans un espace qui est relativement naturel et préservé. Donc vous avez une forme de réintroduction de l'espèce de modèle de Henri David Thoreau, le modèle de la cabane et de la niche écologique, qui est réintroduit et qui crée un effet de contraste par rapport à une planète qui pour le coup est complètement dévastée et instrumentalisée pour je ne spoil pas le film, mais on va s'apercevoir qu'il y a une forme de manipulation, et Tom Cruise n'est pas tout seul, ne croit pas celui qu'il est censé être, et d'où le titre Oblivion qui joue sur cet aspect mémoriel, et puis cette forme de représentation d'un monde, qui est en fait une représentation construite. Je ne voudrais pas monopoliser trop pour la parole non plus.
Moi, je répondrai à la question de Catherine Roche en disant que ce n'est pas de la science-fiction. Il y a plein de gens en France... Les seuls poulets qu'ils ont vus, c'est en filet et en barquette au supermarché, par exemple. Hein. C'est pas, ils ont aucune espèce d'idée de ce que c'est qu'un poisson qui ne serait pas pané, par exemple. Hein. Et c'est pas simplement des enfants, c'est des adultes. Donc je crois que on ne se rend pas compte à quel point on vit dans des espaces où il n'y a pas d'animaux, il y a extraordinairement peu de nature déjà, sans que ça nous pose un problème particulier. Hein. Je crois que on est au contraire, les Esquimaux vivent dans des espaces où il y a quand même extrêmement peu de verdure, hein, c'est moi qu'on puisse dire. Donc je crois que l'idée que l'homme aurait besoin de la nature, c'est une question qui n'a de sens que pour demander quel homme, quelle nature, à quel moment de l'histoire, selon quelle représentation ils sont faits. Mais quant à l'essence de l'homme et à l'essence de la nature, vous voyez, ce sont des questions, on a quand même plus de mal à les articuler. Ce qui est vertigineux, ce serait de penser que justement on peut vivre dans l'enceinte d'un vaisseau spatial comme celui qu'on vient d'évoquer, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, je crois que c'est pas, je suis pas du tout certain qu'on ait besoin de plantes, d'animaux, etc. Je crois qu'on a besoin de congénères, oui, ça certainement. On a besoin d'environnements stimulants, mais on peut imaginer tout à fait autre chose que les sources de stimulation que nous donne la nature.
Et c'est pour ça que sont faites des expériences de vie dans des environnements confinés, pour voir dans quelle mesure et combien de temps et dans quelles conditions tiennent des humains sans contact, sans environnement naturel. Donc voilà, Monsieur Musk fait ça pour les départs sur Mars, et la NASA fait ça aussi pour les départs sur la Lune. Donc, oui, pardon. Pour embrayer aussi sur un point.
Enfin, j'ajouterais simplement qu'il y a des gens qui ont passé 40 ans en régime sévère dans des prisons américaines et qui sont sortis et qui, étrangement, n'étaient pas fous. Alors qu'ils ont vu pendant 23 heures sur 24 un mur en ciment et pendant une heure un coin de ciel, chaque jour pendant 40 ans.
Pas tous. Oui, il y a des exceptions. Pour rebondir aussi, un des aspects qui m'intéresse, c'est alors pour aller parler de manière un peu technique, c'est les processus qu'on peut qualifier de récursifs. Parce que ce qu'on disait là avec le film Passengers, c'est à la fois des formes d'inquiétude, d'angoisse, de perception d'un monde qui est en train de se transformer, qui sont retraduites sous forme filmique, mais ces représentations filmiques vont aussi recirculer. Et on est dans des espèces de boucles qui sont très intéressantes à étudier. Il y a à la fois un aspect alerte et mise en scène de situations potentiellement problématiques, mais ces mises en scène influent aussi sur les formes de représentation qui par la suite vont circuler. Et c'est en ce sens-là que la science-fiction m'intéresse. C'est pas seulement sur l'aspect incarnation d'un imaginaire, mais c'est aussi sur le fait que cet imaginaire, potentiellement, il peut en être fait autre chose. Et autre chose, potentiellement, ce que j'essaie de montrer, hein, à réfléchir et apprendre. Et c'est une des conclusions sur laquelle je débouche dans les livres, hein, c'est que pour aborder ces enjeux écologiques, il nous faudra forcément des médiations culturelles. Et peut-être que ces médiations culturelles, elles sont en train de se construire par le biais de la science-fiction. Et quand on regarde effectivement ce qui sont les blockbusters d'aujourd'hui, si vous faites des statistiques assez rapides, c'est majoritairement des œuvres de SF, hein, qui marchent le mieux en termes d'entrée au cinéma. Donc pourquoi pas, peut-être que cette production massive peut avoir des effets, mais des effets multiples, hein, à nouveau. Il ne faut pas rabattre la science-fiction sur une simple fonction d'alerte et de réflexion. Il y a d'autres fonctions qui peuvent être plus ambiguës. Hein. C'est aussi ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. Et malheureusement, un des effets de la SF, ça peut être aussi une fonction de catharsis et une fonction d'habituation. Et habituation, pourquoi? Parce qu'on finit par être tellement imprégné par ces imaginaires apocalyptiques qu'on se dit, oui, tiens, c'est pas trop grave, on n'en est pas encore là, donc on a encore un peu de temps. Et peut-être que ça, c'est pour le futur et pour un futur très très lointain. Donc faire attention à ces fonctions qui peuvent être assez ambiguës, qui peuvent jouer sur un registre qui est celui de l'alerte, mais pas nécessairement, qui peuvent jouer sur des effets moins...
L'exemple de l'habituation le plus massif, pour moi, c'est le jeu vidéo.
Oui, tout à fait.
Le nombre de jeux vidéo qui sont en réalité apocalyptiques ou post-apocalyptiques,
c'est
complètement incroyable. C'est des blockbusters tout à fait fascinants. Et donc, en fait, les jeunes gens, mais pas seulement les jeunes gens, jouent énormément à ce type de jeu. Il y a un truc dans ce que vous dites aussi qui me rappelle une distinction historique, en fait. La science-fiction était assez mal vue. Il y a un texte assez célèbre d'un philosophe allemand qui s'appelle Jürgen Habermas, qui s'appelle « La science et la technique comme idéologie », dans lequel il rattache le fait de persuader les gens que toutes les solutions sont techniques à la fin des années 60, que les solutions, les crises du système, et notamment du système capitaliste tel qu'il le décrit, peuvent être indéfiniment résolues par des solutions purement techniques et scientifiques. Et il dit que la vogue de la science-fiction, en quelque sorte, constitue une sorte d'idéologie esthétique, complètement compatible avec cette réponse entièrement technocratique au fonctionnement d'un système qui aurait atteint lui-même un certain degré de perfection et d'auto-validation en continu, si bien qu'il n'y aurait plus besoin de réfléchir politiquement aux fins qui sont poursuivies, mais juste d'ajuster les moyens de manière à maintenir un taux de croissance, etc., etc. Et ça, je suis assez frappé de voir qu'effectivement, on a, nous, plus de mal à prendre de la distance par rapport à la science-fiction dans laquelle on vit. Celle des autres, celle d'autrefois, on voit très bien combien elle était utopiste et, ou bien idéologique, etc. La nôtre, on la crédite, c'est assez amusant d'ailleurs, d'une sorte de puissance révélatrice, sans arriver vraiment à construire des médiations, tellement elle est souvent, en plus aujourd'hui je trouve qu'elle dispose de moyens techniques qui impressionnent les sens et qui saturent les possibilités de réflexion d'une façon tellement efficace que c'est peut-être encore plus difficile, c'est moins grotesque, vous voyez, que de voir deux martiens en train de se tirer dessus avec des pistolets laser en plastique, là, comme ça, c'est quand même beaucoup plus impressionnant à cet égard. Et je me demande d'ailleurs quel est le quand on parle de science-fiction écologiste, il me semble, mais peut-être que je me trompe, que ça accompagne un grand virage pessimiste. C'est-à-dire que c'est plus du tout l'idée qu'on va vers des lendemains qui chantent grâce à la science et à la technologie, mais au contraire, que ça nous a mis sur la pente glissante qui aboutit à notre anéantissement. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste une impression comme ça d'amateur.
Ça dépend en fait. Il y a pas une. Enfin, on aurait dû dire dès le départ qu'il n'y a pas une science-fiction. Il y a des science-fictions. Et ce qui a été dit là sur la réaction d'Habermas, en fait, alors j'ai plus la date en tête, hein, de la publication de l'ouvrage en question, mais c'est années 67. Bon voilà. La science-fiction qu'il a en face de lui, c'est une science-fiction qui à l'époque très prométhéenne. C'est Isaac Asimov, c'est Arthur Clarke, et qui n'est pas encore dans le type d'angoisse qui va venir en fait plus tard. Et la dimension écologique et les problématiques environnementales, en fait, c'est fin des années 60 et début des années 70. Donc c'est normal qu'il réagisse comme ça parce que la science-fiction dominante à l'époque, elle est majoritairement dans le registre du space opéra, de l'exploration spatiale. C'est le progrès avec un grand P qui allait tout résoudre. Voilà. C'est l'époque où Asimov écrivait sur l'énergie nucléaire, et l'énergie nucléaire était l'énergie du futur encore à l'époque. Et la crise pétrolière va arriver ensuite, et c'est après qu'on va commencer à se poser des questions sur le futur écologique.
Quand j'étais petit, dans Science et Vie, parce que j'étais abonné à Science et Vie, quand on regarde le contenu de ce qu'il y avait dans Science et Vie, la moitié des articles sont des articles d'anticipation, qui vous expliquait que pour cuire un poulet, il faudrait 3 secondes dans un four à micro-ondes ou des choses de ce genre. Et quand on regarde aujourd'hui ce que c'est qu'un journal scientifique pour la jeunesse, etc., c'est pas du tout sur ce mode-là, hein. C'est vraiment pas ce qui va se passer dans 20 ans ou 30 ans. C'est très rare, les articles comme ça. C'est à peine 10% des articles, hein. C'est vraiment des explications pédagogiques de fondements des sciences, de choses comme ça. Ça fait pas rêver du tout.
Et à propos de rêver, d'abord une petite anecdote, vous disiez que la science-fiction n'était pas bien vue. Je rappellerai qu'Isaac Asimov, qui était biochimiste, qui était professeur d'université, a été prié, je pense que c'est à la fin des années 50, a été prié par son doyen de faire un choix, la science-fiction ou l'université, parce que franchement les deux n'étaient pas compatibles, il a choisi la science-fiction. Et si les hommes, et si l'humanité part sur une autre planète, est-elle condamnée à répéter les mêmes erreurs? Et est-ce que le simple fait de faire de la terraformation, c'est-à-dire d'adapter la planète à l'être humain, n'est pas déjà une première atteinte à l'écologie, à la nature?
Alors là, je peux répondre parce que j'ai lu Mars, les 3 volumes de Mars, hein, c'est donc, je crois, Red Mars, Blue Mars et Green Mars. Et que je trouve que c'est exactement la question que vous posez. C'est une terraformation de la planète Mars. On réussit à... Le cœur du livre, c'est une guerre qui reproduit les conflits qu'il y a sur la Terre. Moi, ce que je me demande, c'est si le truc le plus intéressant dans cette trilogie, ça n'est pas le fait que quand on reconstruit une terre ailleurs, par un système de conséquences inexorables, qui descend du niveau macro au niveau micro, on ne reproduit pas avec l'environnement les gens qui habitent cet environnement. Si le fait de fabriquer une autre terre, qui est vécue par tous les colons dans la trilogie comme repartir de zéro, n'est pas en réalité, si vous faites la terre, vous fabriquez des industries, si vous fabriquez des industries, vous produisez des hiérarchies sociales, si vous produisez des hiérarchies sociales, vous produisez des conflits entre ceux qui commandent parce qu'ils ont le savoir technique, ceux qui obéissent, etc. Et de fil en aiguille, en réalité, on passe du niveau macro au niveau micro et progressivement, inéluctablement, on s'aperçoit de la codépendance de la vie sociale avec l'environnement terrestre. C'est une façon de lire cette trilogie, hein, mais qui est l'exemple, hein, de ce que ça pourrait être si on pouvait expliciter ça en termes de science politique à proprement parler, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer d'un côté l'environnement et ceux qui habitent l'autre environnement et qu'il y a plein de dépendances minuscules qui produisent inexorablement les choses. Sauf que là, je sais pas, c'est que pour terraformer, il faut un tel degré de division du travail qu'en réalité, terraformer, c'est déjà produire la société humaine. C'est ça, parce que la division du travail qu'il faut va apporter tous les conflits et toute l'histoire, toute l'historicité de l'humanité à l'intérieur du processus. Je ne sais pas ce qu'en pense Yannick, mais c'est un peu comme ça construit cette trilogie, en tout cas.
La trilogie est formidable, en effet, enfin, dans sa capacité d'exploration des variables politiques, sociales, etc., qui sont nécessaires. Et on voit effectivement, enfin, même si cette société est censée repartir de neuf, en fait, elle retrouve d'anciens débats de ce qui était la Terre, et voire en s'opposant à la Terre elle-même dans la manière dont elle va se construire. Elle est formidable. Et Kim Sidney Robinson, c'est quelqu'un qui a un niveau de réflexion qui est absolument impressionnant, enfin, dans ce qu'il met en scène. Alors après, sur l'aspect de la formation faite par les humains, pas forcément, enfin, parce que comme je le disais auparavant, le problème de la science-fiction, c'est d'explorer toutes les hypothèses possibles. Et parmi les hypothèses possibles, il y a celle que la terraformation soit faite par des entités non humaines, par des robots, ce qui pour le coup là évite certaines formes de division du travail. Voilà. De même que sur l'humanité qui partirait sur une autre planète, là aussi la SF a exploré une variété d'hypothèses, et typiquement celle qui est mise en scène dans Interstellar. Dans Interstellar, en fait, il y a déjà deux hypothèses qui sont mises en concurrence. C'est soit on prend des humains vivants, donc qu'on soit fait vivre sur un... La classique figure, hein, de l'arche spatiale qui est classique en science-fiction, et on a un transport de leur vivant sur une autre planète. Soit autre solution, c'est on prend des embryons, on les congèle, on les transporte pour le coup très loin, et on recrée une humanité à partir de ces embryons sur une autre planète. Et le film est assez intéressant de point de vue de cette mise en compétition des deux hypothèses, alors en plus avec les paradoxes temporels sur lesquels joue Christopher Nolan. Mais malgré tout, il y a un petit aspect qui est embêtant, c'est comme si sur Terre tout était fichu et que c'était la seule solution qui restait. Et c'est l'aspect ambigu de Interstellar. C'est comme si l'humanité était forcément condamnée à partir ailleurs parce que elle ne peut plus rien faire. Les processus sont engagés tels qu'ils sont irréversibles. Et c'est comme s'il y avait une fatalité. Et voilà, c'est cette ambiguïté qui peut mettre mal à l'aise dans Interstellar. Comme si les processus écologiques étaient nécessairement emballés et que comme si pour le coup il y avait un état final qui était irréversible et sur lequel on ne pouvait pas revenir. J'ai perdu d'autres idées en route. Mais...
Ma question était également, est-ce que le fait simplement de s'installer sur une autre planète, de terraformer, est-ce que ce n'est pas déjà agir contre la nature, en tout cas celle d'origine?
Voilà. Alors oui, en effet, c'est là où on retombe sur des questions éthiques, qui pour le coup ont été pensées, réfléchies par des auteurs tout à fait sérieux. Parce que la question qu'on peut poser légitimement, c'est mais de quel droit les humains vont aller transformer un environnement qui n'est pas le leur? Et on trouve en éthique environnementale des auteurs qui ont essayé de réarticuler la réflexion d'Aldo Leopold, qui est un grand penseur de ce qu'on appelle la Land Ethics, donc l'éthique liée à à des paysages ou à des environnements habités, et on peut réarticuler effectivement du Kim Stanley Robinson avec des réflexions éthiques tout à fait sérieuses telles que celles d'Anne Leopold. Et effectivement, c'est de quel droit des humains vont s'amuser à transformer une planète qu'ils ne leur avaient pas tant demandé, et en plus en arrivant avec un type de vision qui est généralement calqué sur le schéma terrestre, et en essayant de recréer un environnement terrestre sur en fait un environnement martien. Alors, pour ceux qui auraient ce type de dilemmatique, je vous rassure, hein, les scientifiques tout à fait durs montrent que avant d'arriver à recréer des conditions environnementales du type de celles de la Terre sur Mars, il va falloir un gros effort, hein, pour des raisons assez basiques, hein, qui tiennent à la nature du sol martien. Je ne sais pas si vous avez vu, le film s'appelle Mars avec Matt Damon. Voilà, faire pousser des pommes de terre sur Mars, c'est pas aussi facile qu'on a l'air de le penser dans ce film. Hein, voilà. Tout simplement du fait de la nature du sol. Le sol martien ne le permet pas. Et pareil pour le type d'environnement atmosphérique. Les conditions de température et les conditions d'atmosphère de Mars demanderaient un effort colossal avant d'arriver à terraformer Mars. Donc peut-être que Monsieur Musk a des ambitions de ce type. Par contre, il va se retrouver face à des difficultés techniques et pour le coup écologiques locales qui risquent de compliquer sérieusement la situation. Donc il est probable que si on veut terraformer, il faille amener de la Terre, pour le coup terrestre, voilà, pour terraformer, et ne pas se contenter de la Terre martienne, si on peut jouer sur les mots.
Alors peut-être pour rebondir sur le pessimisme d'Interstellar, on peut prendre l'exemple inverse, qui est celui de Wall-E, qui est le petit robot, vous savez, qui nettoie les déchets sur Terre et qui trouve finalement une petite fleur. On se rend compte d'ailleurs que les humains qui sont dans l'espace, continuent à avoir les mêmes comportements, utiliser, jeter. Donc vous pensez que, est-ce que les êtres humains vont pouvoir quand même évoluer, même en voyant finalement ce qu'ils créent, enfin, ce qu'ils ont fait par rapport à la planète, ou est-ce que c'est toujours le même comportement par rapport à l'écologie, cette fois-ci, non pas par rapport à la société, ou est-ce qu'il y a des possibilités ouvertes par certains romans de science-fiction d'ailleurs, sur d'autres domaines, d'autres façons de changer?
Alors, sur la capacité des humains à se transformer et réagir, ça je ne sais pas, puisque visiblement l'accumulation de signaux d'alerte ne suffit pas pour faire évoluer les comportements, et la logique du système est même plutôt inverse, c'est-à-dire accélérer un certain nombre de processus économiques et socio-économiques problématiques. Donc là, pour le coup, on aboutit à l'ouvrage de mon collègue. Pour ce qui est des visions alternatives, une des ambitions de mon livre, c'était justement de les faire réémerger, parce que moi, je suis un lecteur assez assidu, hein, et je fréquente beaucoup la science-fiction, et une des tendances qui est marquante dans les années récentes, c'est le poids croissant des dystopies, de ces visions extrêmement pessimistes, d'apocalypse, de post-apocalypse, etc. Et un des souhaits du livre, c'était de faire, enfin je me suis dit tout simplement, mais enfin bon, je les connaissais, hein, mais c'était voilà, qu'est-ce qu'on a comme voie possible de préservation de notre planète, et j'ai essayé de typologiser en quelque sorte ce que j'appelais des lignes de fuite en m'inspirant de Gilles Deleuze, donc pour montrer que en croisant des variables techniques, économiques, sociales, politiques, on pouvait typologiser ou repérer ce que j'appelais six lignes de fuite. Et dans le bouquin, j'en propose donc qui sont plus ou moins techniques, qui sont plus ou moins démocratiques, qui font plus ou moins recours aux humains ou qui leur apportent une contrainte par l'extérieur. Voilà, et on peut effectivement repérer des voies plus ou moins, alors que j'ai pas appelé des utopies. Parce que le livre visait aussi à casser cette binarité entre utopie et dystopie, et c'est pour ça que je préfère parler de ligne de fuite, parce que l'utopie contient cette espèce d'image de perfection, et alors pour le coup, ce que montre très bien Kim Stanley Robinson, c'est que l'utopie, c'est pas quelque chose qui arrive clé en main, l'utopie, c'est quelque chose qui se conduit, enfin voilà, c'est un projet, et c'est un projet sur la durée, il y a pas d'utopie avec une image qui serait, voilà, qu'on pourrait aller chercher et puis reprendre telle qu'elle, c'est jamais comme ça que ça marche, l'utopie, c'est nécessairement une construction au jour le jour, si tant est qu'on puisse parler d'utopie. Donc, signe de fuite, si vous voulez, je les présente, mais je ne vais pas non plus monopoliser outre mesure la parole, et avec la variété des choix possibles, on aurait pu parler d'Avatar comme autre modèle, plutôt que Wall-E, mais qui est très intéressant d'un autre point de vue, justement, sur la dérive de la société de consommation et son point ultime.
C'est ce qui montre bien combien ces histoires de science-fiction sont vraiment des expériences de pensée, et que une des choses auxquelles je ne saurais pas répondre à la question, c'est une hypothèse que je soulève dans le petit livre que je fais, c'est de savoir si ça ne joue pas pour nous le rôle de ce qu'étaient les utopies au moment de la Renaissance.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, au fond, oui, enfin, je le rappelle, les grandes utopies, celles de Thomas More ou de la Cité du Soleil, de Campanella, ou même chez Rabelais, par exemple, l'Abbaye de Thélème, ou des choses de ce genre, c'est l'expression d'un travail sur la sensibilité morale avant qu'elle ne soit la sensibilité politique, où pour la première fois, on commence à envisager l'idée qu'il pourrait y avoir une cité d'hommes libres, par exemple. Bon. Et effectivement, ça précède de deux siècles les premières théories du contrat social, évidemment Rousseau, mais aussi Locke, Hobbes, etc. C'est-à-dire c'est uniquement parce que pendant de très très nombreuses années, de nombreuses générations se sont acclimatées à cet univers de fiction politique que il devient possible d'envisager au début du XVIIe siècle, donc un siècle et demi après, des constructions politiques. Est-ce qu'on pourrait pas faire l'hypothèse que la science-fiction post-apocalyptique contemporaine, d'une part, il y a deux choses qu'on peut dire là-dessus, elle est d'une part la preuve du travail d'une sensibilité qui n'est pas encore arrivé à la maturité d'une expression politique, rationnelle et réflexive des drames et des choix qui devront être faits par les générations qui suivent. Je trouve que c'est une hypothèse qu'on peut soulever. Et d'autre part, de la même manière que l'utopie, elle a un effet, elle radicalise le caractère analytique, c'est-à-dire le caractère de décomposition, la tentative de décomposition en élément ultime, irréductible, du monde dans lequel on vit et de ce à partir de quoi devra être reconstruit le reste. C'est-à-dire que moi je suis très frappé du fait que les grands romans post-apocalyptiques ne laissent subsister qu'une sorte de combinatoire élémentaire. Alors un homme, une femme, un enfant, un animal, un insecte, une fleur, un robot, je sais pas, une créature mutante, etc., qui semble être, vous voyez, les briques élémentaires à partir desquelles se décide la question de savoir si ça recommence ou pas, si c'est la fin de tout ou si un cycle nouveau peut s'enclencher. Et si on n'a pas atteint cette bifurcation, est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce que ça va repartir? Alors, on n'est pas sûr d'avoir atteint le niveau des briques élémentaires et donc l'analyse vraiment des choses. Et donc, gratte-ciel, ces villes rasées, il n'y reste que c'est toujours comme ça. Enfin, je sais pas, mais il me semble que c'est mon impression. Le scénario aboutit toujours à mettre en scène vous voyez, les noyaux essentiels, les restes essentiels à partir duquel ça pourrait repartir. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait saisissant parce que c'est une sorte d'analyse qui n'est pas voulue comme telle, mais qui semble mettre en jeu nos représentations les plus profondes, même celles dont nous ne sommes même pas conscients quand nous parlons, réfléchissons, etc. De quoi on reste? Et la science-fiction post-apocalyptique, à cet égard, est vraiment aussi, je crois, incroyable que celle que les utopies de la Renaissance qui découvrent l'individu. Voilà. Les utopies de la Renaissance, elles découvrent l'individu, soit pour l'abolir complètement, soit pour en faire le centre des choses, hein, donc Campanella d'un côté, Rabelais de l'autre, et elles ont une puissance d'analyse purement esthétique, vous voyez, où la brique du rapport société-individu, en quelque sorte, qui va mouliner dans tous les sens pendant plusieurs siècles avant qu'on arrive à Rousseau, au contrat social, aux droits des gens, etc., se remette à marcher. Et ça, je trouve que c'est vraiment une spécificité, comment dire, intellectuelle de la science-fiction post-apocalyptique que je trouve moins. Mais à nouveau, je parle avec inquiétude parce que j'ai pas lu tout ce que Yannick a pu lire, que je trouve moins dans la science-fiction d'avant. Elle a un sérieux, cette science-fiction post-apocalyptique aujourd'hui, elle a une densité, elle a une qualité où en fond l'angoisse et la peur font le travail d'isoler Mais au fond, de quoi, quels sont les derniers constituants ultimes du monde quand tout est décomposé? Voilà.
Oui, c'est aussi ce que j'ai essayé de théoriser dans mon deuxième chapitre, en essayant de montrer qu'effectivement, ces projections apocalyptiques et post-apocalyptiques sont aussi des manières de mettre en scène des puissances d'agir, pour parler comme Spinoza. Et pour le coup, c'est à la fois montrer ce qui peut être préservé, mais montrer aussi comment des humains subsistants peuvent s'appuyer sur justement ce qui est préservé, ces puissances d'agir, pour reconstruire des collectifs. Et il y a, alors je suis pas le premier à le dire, mais il y a pas mal de travaux qui essayent de montrer, bah, justement, le fait de mettre tout sous forme de table rase, c'est une manière de repenser le contrat social, de repenser même une forme de contrat socio-écologique, pour le coup, et c'est tout l'intérêt, même y compris des films de zombies ou des œuvres de zombies.
Non seulement des films de zombies, mais par exemple, moi, la réticence invincible que j'éprouve devant tout ce qui est collapsologie, etc., quel que soit le succès invraisemblable de ce genre de construction, c'est qu'elle n'arrive pas à saisir l'opportunité que donne la science-fiction, qui est de rester patient devant des processus que nous ne connaissons pas. Il y a une sorte de précipitation à sortir de la science-fiction en faisant de la fiction de science, en quelque sorte, qui ne se saisit pas de l'opportunité esthétique et intellectuelle de la science-fiction post-apocalyptique. Ce qui fait que, du coup, d'ailleurs, très souvent, toute cette collapsologie est d'autant plus populaire que, comme la mauvaise science-fiction, elle ne fait que projeter les lubies privées des uns des autres sur des modèles de fonctionnement sociaux dont on sait très bien depuis 50 ans ou plus encore que voilà, qu'ils sont non fonctionnels, etc. Il y a un petit côté sans se donner, vous voyez, sans se donner ce que les utopistes de la Renaissance avaient accepté, ce que Thomas More ou Campanella ou Giordano Bruno acceptent, c'est-à-dire que on doit rester dans cet élément de l'indécision esthétique. On ne doit pas faire une collapsologie. On peut faire de la science-fiction post-apocalyptique, mais on doit se retenir. Et je trouve que ça, c'est vraiment une très belle chose dans la science-fiction contemporaine. C'est une école de patience morale et intellectuelle. On peut pas aller plus vite que ce que nous sommes réellement capables d'imaginer. Sinon, nous projetons, c'est comme le transhumanisme, n'est-ce pas? On projette sur l'avenir des choses archi-vieilles qui étaient déjà, vous voyez, qui étaient déjà dans Jules Verne, sauf qu'ils ont des implants dans la tête, quoi. Hein. Et ça, c'est vraiment une leçon que je trouve les meilleurs livres de science-fiction donnent, quoi. Une leçon de, justement, c'est de la fiction parce qu'il faut être patient.
Et même dans Dune, d'ailleurs, il faut être très patient. Dans Dune, d'ailleurs, il faut être très patient avant qu'une planète ne verdisse complètement. Mais je dirais, c'est aussi parce que les collapsologues, en fait, ils ont tendance à rabattre la SF sur la fonction d'alerte, comme je l'ai appelé. Et en fait, ils oublient que la SF peut avoir une variété de fonctions qui ne sont pas uniquement la fonction d'alerte. Et voilà, ils en ont une lecture qui est un peu unilatérale et qui oublie pas mal d'autres aspects, malheureusement. Je crois qu'il y a d'autres questions qui...
Alors, d'autres questions, mais pas de ma part. On a un petit temps pour les questions du public. Donc, à nos deux intervenants. La première question. Les micros sont là. Merci.
Bonjour.
Bonjour.
C'est bon. Alors, Monsieur Rumpel, tout à l'heure, vous alliez nous présenter les lignes de fuite que vous aviez trouvées par rapport à la science-fiction et les côtés un petit peu optimistes. Et du coup, vous n'avez pas eu le temps de nous les présenter. Donc, est-ce que vous pouvez nous...
Je dirais pas optimiste, mais porteuse d'autres schémas qui peuvent, alors peut-être pas donner des formes d'espérance, mais en tout cas inciter à adopter d'autres manières de penser. Alors je les donne très vite, très très vite, dans l'ordre dans lequel je les aborde dans le livre. La première, c'est ce que j'ai appelé l'abstention technologique. Donc c'est le fait de dire l'humanité doit arrêter son développement technologique. Vous en avez plusieurs versions. Une par exemple chez Marion Zimmer Bradley, qui est la version démocratique, où le choix est fait par la collectivité en toute connaissance de cause. Et vous en avez une version moins démocratique qui est chez Michel Jury, dans Les Écumeurs du silence, où est présentée à la population l'idée de la mettre en sommeil, en quelque sorte, sous terre, dans des gigantesques cavernes, avec l'idée que cette mise en sommeil permettra à la planète de se régénérer, de récupérer. Et avec l'idée que ceux qui sont mis en sommeil pourront revenir sur Terre une fois que la planète aura été régénérée. Alors, là aussi, je divulgage pas la fin, mais pour le coup, c'est pas un choix démocratique parce que il se pourrait bien que ceux qui ont été mis en sommeil aient été manipulés et qu'ils n'aient pas été tout à fait mis en sommeil et qu'on ait fait d'autres choses de leur corps. Je vous laisse découvrir la chose si vous lisez le roman de Michel Jury, donc qui s'appelle Les Écumeurs du silence. La deuxième option que je dégage, c'est ce que j'ai appelé la sécession arcadienne. Qu'on trouve dans Écotopia, qui est un roman qui a été réédité récemment et retraduit d'ailleurs bien heureusement. L'idée, c'est et le bouquin est typique hein, de la contre-culture des années 60-70, donc d'Ernest Kaldenbach. L'idée, c'est trois États, enfin deux ennemis, États de la côte est américaine qui font sécession et qui décident de s'écarter du modèle consumériste et productiviste dominant et qui décident d'adopter un mode de vie écologique. Et le livre est très stimulant parce qu'on y voit des formes de fulgurance, d'options qui en fait ont été explorées par la suite. Le plastique biodégradable, les visioconférences, le vélo en libre-service, la limitation de la taille des villes, l'obligation des transports en commun. Et, voilà, il y a un tas de pistes comme ça qui apparaissent et qui sont traitées sur le registre d'anticipation. Et on se dit a posteriori, voilà, il y avait un modèle qui était presque clé en main, qui aurait mérité. Alors peut-être pas une incarnation, mais de servir d'inspiration. La troisième ligne de fuite que je repère, c'est ce que j'ai appelé la frugalité autogérée, que je suis allé chercher chez Ursula Le Guin, voilà pour ceux qui travaillent sur les utopies critiques. Donc dans Les Dépossédés notamment, qui est un roman qui met en scène deux planètes en quelque sorte. Donc une qui s'appelle Anarès, qui est plutôt donc là aussi, c'est une forme de sécession hein, d'un groupe qui est parti en essayant de mettre en place un gouvernement autogestionnaire, plutôt anarchisant, qui refuse la propriété, qui refuse les formes de centralisation, même si on subsiste dans une certaine mesure. Et le roman est intéressant parce qu'il montre ce que ça veut dire de gérer des ressources dans un contexte de raté extrême. Donc c'est une planète qui est en fait une ancienne planète minière, hein, donc sur laquelle il y a très très peu de végétation. Et le roman met en scène bah, comment est-ce qu'on fait pour gérer une frugalité, mais de manière consensuelle, démocratique, autogestionnaire, et sur des principes qu'on peut qualifier d'anarchisants, qui font d'autant plus contraste que l'autre planète est restée sur un mode productiviste, consumériste. Enfin, voilà, c'est le modèle américain classique, tel qu'on pouvait le voir à l'époque. Donc c'est un héros qui va faire les allers-retours, qui pense trouver mieux, mais pour d'autres raisons, sur la planète la plus riche. Et pour vous donner quelques exemples symptomatiques, hein, sur Anarès, en l'occurrence, la planète anarchisante, toute idée de propriété est refusée. Mais toute idée, jusqu'y compris dans l'usage des pronoms possessifs. Donc par exemple, on ne peut pas dire « ma mère », c'est considéré comme une forme d'appropriation, c'est mal. Donc c'est pour retirer des esprits l'idée de propriété, et en commençant par un usage très attentif, y compris des pronoms possessifs. La quatrième ligne de fuite que je repère, c'est ce que j'ai appelé l'abondance automatisée. Donc, autant la première était une version low-tech, autant la quatrième est une version high-tech. Je suis allé la chercher chez un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ian Banks, qui est un négocé, et ça compte dans une certaine mesure dans sa manière d'écrire. Donc là, pour le coup, il décrit une grande civilisation galactique qui s'appelle la culture, qui est une civilisation qui vit sur des principes hédonistes, également plutôt anarchisants, et qui peut se le permettre parce qu'elle a atteint un niveau de développement technologique. En fait, elle est capable de gérer la matière et l'énergie sans se poser de questions. En gros, je transforme la matière, je transforme l'énergie, et mes techniques me permettent de le faire. Et pour le coup, il n'y a pas de souci environnemental. Les entités humanoïdes, pas que des humains d'ailleurs, vivent sur des orbitales. Et en fait, les orbitales ne sont pas construites en allant chercher des minerais sur les planètes, mais en récupérant tout ce qui traîne, comme astéroïdes, voilà, débris planétaires. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'exploitation écologique. Donc, ce sont des orbitales qui font des millions de kilomètres, mais sans aller ou sans avoir besoin d'extraire de manière extractiviste, pour le coup, ces matériaux nécessaires. Et là où c'est intéressant, c'est que Banks met en scène donc une humanité qui vit en harmonie, en quelque sorte, avec les intelligences artificielles, qui sont en fait les quasi-gestionnaires de cette grande civilisation galactique. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'abondance automatisée, mais aussi l'anarchie assistée par ordinateur. Puisque l'hypothèse que fait presque Ian Banks, c'est que l'URSS n'a pas fonctionné, mais elle n'a pas fonctionné parce qu'elle n'avait pas pas justement les IA, les intelligences artificielles. Et peut-être que si on avait les capacités de calcul, bah peut-être qu'un Gosplan version soviétique pourrait fonctionner en calculant de manière optimale l'allocation des ressources et à une échelle voilà qui est hors de proportion pour les esprits humains. Alors, Banks est très subtil, hein, mais très très subtil dans la description de ce modèle. Il le met en scène par ses personnages où on s'aperçoit qu'effectivement, les humains qui paraissent vivre en bonne relation avec les IA, bah, peut-être seraient plus ou moins manipulés par ces IA. Et peut-être que les humains seraient finalement les animaux de compagnie, en quelque sorte, de ces intelligences artificielles. De même que nous, nous avons des petits chiens, nous avons des petits chats. Bah, peut-être que les humains, leur destin, c'est finir comme les espèces de petits chiens, de petits chats de ces IA. Même si les humains s'éclatent, hein, ils peuvent faire 3 symphonies, ils peuvent lire les bouquins qu'ils veulent, faire du sport toute la journée, changer de sexe 36 fois dans leur vie. Enfin voilà, les options sont multiples et l'hédonisme est le plus total. Le cinquième modèle que je repère, c'est ce que j'ai appelé le conservationnisme autoritaire, dont je donne 2 versions. Qui est un peu le modèle du conservatoire écologique, que je trouve dans une première version chez Karen Travis, dans une série de romans dont les premiers sont les plus intéressants. Il y en a 3 traduits seulement en français, hein, sur une série de 6 tomes. Ça se dégrade au fur et à mesure, donc c'est peut-être compréhensible pour qu'on en a 3. Donc c'est l'histoire d'une expédition qui part sur une planète, essayer de retrouver des nouvelles d'une autre expédition qui ne donne plus signe de vie. Et pourquoi elle ne donne plus signe de vie la première ? Ben parce qu'elle était en quelque sorte parquée sur cette planète dans une espèce de conservatoire écologique. Elle a été parquée par une entité extraterrestre qui est immortelle, surpuissante, et qui a pris en quelque sorte en protection cette planète. Et d'autres espèces avaient tenté le coup auparavant en implantant des villes. Et elles ont été éradiquées de la planète parce que dans une espèce de rédemption, l'extraterrestre en question considère que sa mission c'est préserver les entités écologiques de cette planète. Mais parfois sans forme de jugement hein, pour les humains. Il y a par exemple un humain de la nouvelle expédition qui va tomber sur ce qu'elle croit être un petit individu mort, un enfant, qui est en fait d'une espèce aquatique qui est sortie de son milieu de vie, qui est juste inanimé. Sauf que l'humain en question est une scientifique, et comme tout bon scientifique sur une planète nouvelle, va vouloir disséquer, etc., le petit enfant. Et sauf que l'extraterrestre surpuissant, sans jugement, va éliminer l'humain en question, en considérant que sa mission c'était de préserver intrinsèquement la planète, et ce qu'a fait l'humain c'était impardonnable. Et sans jugement, l'humain sera éliminé. Donc conservationnisme autoritaire, parce qu'effectivement, c'est une solution, une option, une espèce d'entité surplombante qui déciderait de préserver les espaces écologiques. Alors évidemment, pas de manière démocratique. Et moi, ça m'a intéressé parce que c'est une espèce d'écho ou de transposition des théories écofascistes qu'on voyait dans les années 70, au tout début des années 70, et qu'on va refleurir de manière surprenante, hein, le type de qui a assassiné des musulmans en Nouvelle-Zélande, alors, de manière surprenante, restaure des thèses écofascistes qu'on croyait avoir disparu. Donc ça, c'est une version de ce conservationnisme autoritaire, et j'en trouve une autre version dans un roman qui s'appelle Carnival d'Elisabeth Baer, qui est pas traduit malheureusement, où cette fois-ci l'injonction vient des intelligences artificielles à nouveau. Donc c'est un stade ultérieur de l'humanité où les intelligences artificielles ont pris le dessus et ont pris comme mission de gérer ce qu'il reste de capacité écologique de la planète. Et elles le gèrent, cet état, de manière très brutale. C'est-à-dire, par exemple, la population, elle est régulièrement gérée par une procédure qui s'appelle adjustment. Donc, si le niveau de population est considéré comme dépassant un seuil où la capacité de charge écologique n'est plus supportable, c'est les IA qui calculent le nombre de populations éliminées et qui le font sans aucune espèce de sursaut de conscience. Donc, conservationnisme autoritaire, et à nouveau, c'est pas très démocratique hein, dans la manière dont c'est fait, et les humains subissent, hein, puisqu'ils n'ont pas les capacités pour s'exprimer contre leur volonté. Et puis la dernière ligne de fuite, je vais pas être très long dessus parce que vous la connaissez tous, hein, c'est Avatar. J'ai appelé ça la spiritualité naturelle. Donc une espèce de symbiose avec la nature que vous trouverez mise en scène avec les Na'vi hein, sur Pandora. Où là, pour le coup, le film est intéressant parce que c'est l'humanité qui se retrouve mise dans le schéma extractiviste, dans le schéma d'exploitation. Donc les Na'vi, dans une espèce de révolte, vont se servir de ce lien avec la nature. Et pour le coup, la nature est incarnée sous une forme de divinité. Hein. C'est l'arbre divin. Donc représenté dans le film. et d'où l'expression de spiritualité naturelle, qu'on trouve là aussi avec des correspondances. Voilà, Pierre Rabhi, dans une certaine mesure, serait une incarnation contemporaine, dans une certaine mesure. Enfin, je vois des, voilà. Mais on peut trouver aussi en philosophie des formes de transposition de cette spiritualité naturelle. Voilà, 6 modèles. Je vous laisse choisir celui qui vous plaît ou faire un mélange entre les 6 en fonction des variables qui sont celles que vous préférez.